truck living on fuel. When she was 7 years old, she saw a man get shot, but no one came for a long time because it happened in a remote parking lot in Las Vegas, and she was waiting for her mom to come back from working the blackjack table at the Circus Casino, and that night, her mom said the two of them and the now dead guy were the only three people who ever really lived in Las Vegas. Everybody else just arrived, ate their complimentary shrimp cocktail, and left.
Métri qui dans le cul de la radio, un groupe solide en béton avec des structures en acier, a priori indestructible ce groupe. Bonjour Émilie.
Eh bien bonjour Duja et salut à vous tous qui nous écoutez. Effectivement on revient donc toute cette semaine sur l'interrogation de mais que se passe-t-il ? Pourquoi finalement remettons en cause les attentats du 11 septembre dans différentes associations à travers le monde ? C'est vrai ? Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt ? Tiens mais que se passe-t-il en ce moment ?
Les gauchistes sûrement.
Est-ce qu'on peut ne serait-ce que poser cette question ? La version officielle tient-elle debout ? N'y a-t-il pas encore des zones d'ombre non éclairées ? Donc bref, a-t-on le droit de parler du 11 septembre finalement autrement que comme on nous l'a imposé il y a 7 ans et comme on continue de nous l'imposer ? On en parle ce matin pour poursuivre avec Daniele Ganzer qui est avec nous depuis Bâle au téléphone. Bonjour Daniele.
Bonjour madame.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je vais préciser que vous êtes historien, professeur à l'université de Bâle, que vous avez publié différents ouvrages et différents articles, notamment sur les armées secrètes de l'OTAN ou encore sur tout un travail mené sur le pétrole. Et ma première question, justement, est celle-ci. Est-ce qu'il y aurait une relation possible entre les événements du 11 septembre et l'état des ressources en pétrole dans le monde ?
Au moment, on ne le sait pas. Mais il y a des gens là dans les universités qui se posent la question, est-ce qu'on a fabriqué un événement pour après prendre le pétrole ? Et cette question, elle a commencé de tourner quand la guerre en Irak a commencé, parce que là, on a vu qu'on a fait le lien entre le 11 septembre et la guerre en Irak, mais ce lien, il était pas correct, il était faux, il était manipulé, et c'est pour ça qu'on se pose la question.
Alors, je vais juste préciser à mon collègue que vous parlez très bien français, mais que vous n'êtes pas francophone de langue maternelle.
C'est correct.
Donc, on va articuler et essayer de pas se couper la parole mutuellement. Quand même, il existe un film sur le pic pétrolier qui circule beaucoup, que l'on peut voir, et qui met en évidence finalement un besoin des États-Unis d'avoir le contrôle sur les différentes zones de ressources naturelles en pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, personnellement, je trouve ça une question très très importante pour la Suisse aussi, pour les Américains, pour les politiciens en Chine, en Inde, en Angleterre, bref, un peu partout. Donc le pétrole, cette question, elle est très très grande, elle est très très importante, on le voit, le prix il augmente, et tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y en a encore beaucoup ? Et on voit au moment une histoire qui se développe, que les gens disent, on combat le terrorisme. Et c'est pour ça qu'on va dans les pays comme Irak ou Afghanistan. Mais il y a aussi une autre histoire qui est à côté de cette histoire qui dit « Mais non, le combat contre le terrorisme, c'est pas vrai, c'est une histoire pour la population. » Et la vérité, c'est qu'il y a un combat entre les Américains, la Chine et les Russes pour le pétrole. Et là, en Suisse, il faut quand même réfléchir sur ces questions parce que c'est important aussi pour nous.
Juste une question par rapport au fait que ce soit peut-être justement ces attentats soient peut-être téléguidés depuis l'intérieur par les États-Unis. Mais alors, qu'en serait-il de Ben Laden dans cette histoire ? Est-ce qu'on peut imaginer que ce personnage n'existe plus ou n'existe pas et que ce soit monté aussi comme ça de pièce par pièce par les Américains ? Est-ce qu'il existe ou pas Ben Laden finalement ?
c'est quand même une personne très très bizarre, il faut le dire comme ça, mais il existe, il existait au moment, on ne sait pas s'il est encore vivant ou pas, mais dans les années 80, il a travaillé avec le CIA dans l'Afghanistan pour combattre les Russes. Là, c'est bien documenté, il existait, il était là, il a fait cette guerre, il a travaillé avec le CIA, ça c'est bien documenté. Après, c'est un peu plus compliqué de savoir ce qui s'est passé parce que la deuxième fois, quand il est rentré vraiment dans la conscience des historiens, aussi de la population, c'était après cette guerre en Afghanistan a commencé et les Américains, les soldats américains ont dit qu'ils ont trouvé un vidéo en Afghanistan pendant cette guerre qui documente que Osama Bin Laden a fait le 11 septembre. Et là, pour les historiens, c'est toujours un peu un problème si on dit, on a le 11 septembre, on dit c'est Osama Bin Laden. Après, on commence la guerre contre Afghanistan, c'était le 7 octobre 2001, et là, on trouve une vidéo qui précise que vraiment c'était Osama Bin Laden, c'est très délicat.
J'aimerais revenir sur tous vos travaux concernant les armées secrètes de l'OTAN. À la lumière de ces recherches, M. Ganzer, est-ce qu'on pourrait imaginer que les attentats du 11 septembre soient un acte délibéré d'auto-agression par des services internes aux États-Unis ?
C'est dans mon livre « Les armées secrètes de l'OTAN » que j'ai recherché la question « si on a eu du terrorisme manipulé ». Et le livre, il ne parle pas du 11 septembre, mais il parle des actes terroristiques dans la guerre froide. Et là, on a trouvé que, et ça c'était pas connu plusieurs années, qu'on avait des armées secrètes qui ont manipulé le terrorisme pour des idées politiques. Donc en Italie, le service secret a fait des attentats, et puis après, ils ont dit que c'était les communistes, et comme ça, on a pu discréditer les communistes.
Mais vous pensez peut-être à quelqu'un comme Aldo Moro ?
Aldo Moro, c'était pas un acte terroriste, là, c'était une assassination. En 1978, Aldo Moro a été tué, on a dit que c'était les Brigades Rouges, et là, il y a toute une discussion si peut-être les Brigades Rouges ont été infiltrées par la CIA, et parce qu'on voulait pas que Aldo Moro présente au Parlement l'idée de inclure les communistes dans le gouvernement italien. Parce que là, l'OTAN avait peur d'avoir le communiste dans les gouvernements en Italie, en Grèce aussi, en France, dans d'autres pays. Cette armée secrète, ils ont existé dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest, donc en Allemagne aussi. Là, on a recruté des nazis pour être sûr que ces armées secrètes soient anticommunistes.
Mais alors, Daniel Ganzer, si le terrorisme manipulé a existé, si ces armées secrètes ont bien existé dans toute l'Europe de l'Ouest, à l'insu des États et à l'insu des citoyens, est-ce qu'on pourrait imaginer que ça existe encore ?
Oui, on peut l'imaginer.
On va faire une petite pause musicale et puis on revient ensemble dans quelques instants, d'accord ?
Ok.
Et merci, merci d'être avec nous.
De rien.
Le temps de réfléchir à tout ça, hein, un petit peu ventiler nos neurones.
On est sérieux. Oh là là.
Ouais, on est sérieux, mais je crois que le sujet le mérite, en tout cas. Émilie, merci de creuser, c'est ce que disent de nombreux auditeurs.
Hein. Ah, c'est vrai.
Ils sont contents qu'on affronte une fois un peu les
ouais,
choses.
Ouais, des fois on fait le travail.
Ouais, bon. Kéra. Que du mystère.
out the lines, don't make too much noises, and disturb yourself. You follow the rules, don't walk out the lines, don't make too much noises, to disturb yourself. Take time to stay alive, even if you're down, or if you're down. Take time to stay alive, even if you're down, or if you're down. You're following the rules, don't look out the lights, don't make too much noises.
Le collectif Neuchâtelois Kerra dans ce Que de la radio consacré au 11 septembre, remise en question, toujours avec Émilie, le professeur Daniel Ganzer.
Voilà, et on a été témoins en antenne tous ensemble donc de l'intervention d'un collègue qui vient...
Samuel Villermo, qui voilà, a couru qui vient nous dire, le studio,
oui,
ça
mais...
passionne tout le monde.
Mais moi j'ai vu à la télé autre chose avec d'autres interlocuteurs qui nous parlent d'Al-Qaïda, Al-Qaïda a revendiqué, donc de toute façon ça existe. Alors on va être très très clair sur cette semaine, on n'est pas en train de vous donner comme ça de la bouillie prémâchée histoire de vous remplir le cerveau. On essaye d'écouter d'autres voix qui amènent d'autres idées, d'autres alternatives pour ensuite avoir chacun la possibilité de faire sa propre opinion et surtout d'être critique par rapport à l'information. Donc voilà, concentrons-nous tous ensemble. Et on retrouve donc Daniel Ganzer qui est historien depuis Bâle, hein, à l'université où il enseigne. Et justement, comme il demeure beaucoup d'incertitudes hein, sur le 11 septembre, Daniel, hein, et que cela semble incroyable hein, quand même que 5 ans, attends, combien 7 ans plus tard, on ne soit toujours pas arrivé à y voir clair. Moi, j'aimerais savoir, comment vous expliquez cela, hein, vous qui travaillez sur l'histoire contemporaine. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que ça soit aussi flou encore?
Le terrorisme, c'est toujours une chose très compliquée, parce que si on fait un attentat terroriste, ça détruit toutes les traces, ou presque toutes les traces. Ça détruit beaucoup de traces. Donc, c'est normal que ça prend beaucoup de temps pour savoir la vérité sur un acte terroristique. Là, c'était la même chose sur mes recherches sur les armées secrètes de l'OTAN. Là aussi, il a fallu 10 ans ou 20 ans des fois pour savoir toute la structure, pour savoir la manipulation du terrorisme. Donc, je suis pas tellement surpris, mais les historiens, c'est normal, ils attendent 5 ans, 10 ans, 20 ans, et à la fin, ils disent non, là, il faut voir cette situation dans cette perspective. Donc, pour nous, comme pour les historiens, c'est normal que ça prend du temps. Peut-être pour les médias, c'est différent. Les médias, déjà, après l'attentat, le jour après, ils disent c'était Osama Bin Laden, ou c'était Al-Qaïda, ou c'était les Brigades Rouges, ou c'était cette opération. C'est pas, voilà, c'est très difficile de parler comme ça.
Vous parlez de traces. Il y en a qui ont beaucoup fasciné les gens. C'est cette fameuse histoire de passeport retrouvé dans les décombres du World Trade Center. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Je trouve bizarre. Franchement, un passeport là trouvé dans le World Trade Center, je trouve bizarre. C'est parce que là en Italie, avec le terrorisme manipulé, il faut toujours penser qu'il y a des traces aussi manipulées. Donc les services secrets, ils ont dit oui, on veut discréditer quelqu'un, et puis on va mettre une voiture ou on va faire un appel aux médias, et on va prétendre qu'on est cette personne, mais on est là, on n'est pas là cette personne. Et là, sur le discours sur le 11 septembre, il me manque un peu que personne n'a posé la question, mais est-ce qu'on a aussi des traces manipulées? On est là et on prend toujours les traces ou la communication du gouvernement comme réalité. Et là, c'est un peu bizarre.
Alors justement, on pourrait peut-être parler de troubles, hein, de flou dans toutes ces informations, et du coup d'une certaine peur provoquée par ces zones d'ombre. Et moi j'aimerais savoir si tout cela ne pourrait pas servir finalement à manipuler également l'opinion.
Oui, pour moi, c'est le terrorisme, c'est toujours pour manipuler les gens. Donc, si c'était Osama Bin Laden qui a vraiment fait cet attentat, moi, personnellement, je dis, c'est possible, mais on le sait pas encore, c'est pas prouvé du tout. Si c'était Osama Bin Laden, donc, il a voulu manipuler les gens, c'est clair. Et de l'autre côté, si les Américains ont participé à cet événement. Là aussi, ça serait la manipulation. Mais à la fin, c'est clair, le terrorisme, il sert à manipuler les gens. C'est pas les gens qui meurent dans un attentat qui sont les victimes. Là, on se rend pas compte. C'est toujours les gens qui sont là et qui observent après la terreur qui sont les victimes. Pas eux, ils sont manipulés dans la tête. Ils ont peur. Ils pensent, oh, ça aurait, bon, c'était possible que moi aussi je mourrais ce jour-là. Et c'est ça la manipulation. Ça. Le terrorisme, c'est une chose un peu complexe, mais elle essaye de manipuler les survivants, pas les morts, parce qu'ils sont, ils sont morts après.
Certains historiens prétendent que la piste de Hambourg, la section hambourgeoise d'Al-Qaïda, serait de manière quasiment sûre à la source de ces attentats. C'était répété hier soir dans une émission sur France 2, l'émission de Frédéric Taddeï, avec un historien mauritanien qui disait que la piste de Hambourg, Al-Qaïda section Hambourg, était hyper sûre.
Oui, vous avez là sur le 11 septembre des dizaines, des vingtaines, des centaines d'experts qui disent c'est sur ça, c'est sur ça, c'est sur ça à la fin. Et les gens, pour eux c'est très très difficile, pour eux à la fin il reste la question, mais je fais confiance à qui? Je fais confiance à quelle histoire?
On peut penser que les experts aussi sont manipulés?
Non, il y a des experts qui pensent vraiment qu'ils ont trouvé la vérité. Mais moi je reste plus prudent sur le 11 septembre, je dis... On a trois théories, on a trois hypothèses. La première hypothèse, c'est que c'était vraiment Osama Bin Laden et que les Américains, Bush et Cheney, n'ont pas pu réagir. Ils savaient un peu quelque chose, là c'est bien clair, on a pu prouver ça, mais ils n'ont pas pu...
Prévenir
l'attentat. Donc c'est la première théorie, c'est la première hypothèse, c'est la hypothèse surprise. C'est donc la théorie mainstream, si vous voulez. Que aussi dans la Suisse, dans les médias, on a cette théorie. Mais la deuxième théorie, elle est différente. C'est la théorie LIHOP, Let It Happen On Purpose. C'est-à-dire, dans cette théorie, Osama Bin Laden attaque les Américains. Mais les Américains, donc pas la population, eux, ils savent rien, mais les stratégistes, ils disent, bon, on laisse cette attaque... passé, donc on va sacrifier 3000 personnes, ça serait criminel, je sais, mais ça existe dans l'histoire des actes criminels. Et puis, en revanche, on va prendre le pétrole et le gaz, donc on va commencer des guerres de ressources. Et la troisième théorie, c'est le MIHOP, Make It Happen On Purpose. Dans ce cas-là, Osama Bin Laden n'attaque pas du tout. Il a rien à faire avec les attaques, les vidéos qui sont manipulées. Et c'est le Pentagone ou le CIA ou d'autres branches qui font une manipulation, un acte terroriste manipulé. Et je dis, là on a ces trois théories, ces trois hypothèses, et il faut plus de recherches sur ces trois théories, donc je suis un peu plus prudent, je dis pas le surprise, c'est garanti et c'est clair, parce que c'est pas le cas.
Et merci à Daniel Eganzer, on revient dans quelques instants pour une dernière intervention, et puis on souligne que nous non plus, on n'a pas la vérité, et qu'on est bien comme vous tous.
Si, j'ai une vérité, j'ai une vérité, oui, on va écouter Kezia Jones, il n'était pas dans l'avion.
Ah, c'est vrai.
If I tried to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean loves the sea. If I tried to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared. Ocean loves the sea. Say, the ocean loves the sea. I say, the ocean loves the sea. Rhythm is love. The feeling called musical. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa.
trust you to make them all colorful. Hey, yeah.
Un peu plus loin que la radio avec le 11 septembre en question, question au pluriel. On est toujours avec Émilie, le professeur Daniel Ganzer, historien contemporain à l'université de Bâle. Si on prend les trois hypothèses, à savoir l'hypothèse de la surprise, donc Ben Laden attaque, l'hypothèse on savait mais on a laissé faire, ou la troisième, c'est-à-dire qu'on l'a fait nous-mêmes, si j'ai bien compris les trois hypothèses.
Oui,
est-ce que se vérifierait un petit peu cette idée que les Américains avaient besoin d'un nouveau Pearl Harbor pour pouvoir justifier leurs attaques ou leur emprise sur le monde?
Oui, l'attaque de Pearl Harbor de 1941, là, on a une discussion entre les historiens, si c'était une surprise, donc s'ils ne savaient rien du tout, ou si c'était un lee-hop, parce que c'était quand même les Japonais qui ont attaqué, ça c'est clair, mais il y a beaucoup de personnes, moi inclus, qui pensent que c'était un lee-hop, que le président Roosevelt, à ce temps-là, voulait entrer dans la guerre, la Seconde Guerre mondiale, à faire la guerre contre Hitler, mais la population américaine ne le voulait pas. Et pour convaincre une population, pour convaincre la population américaine de commencer des guerres, c'est très utile d'avoir un attaque, parce qu'après on peut dire il faut se défendre.
Ah mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs finalement pour la guerre en Irak, parce que même avec les attentats du 11 septembre, la population était majoritairement contre de toute façon.
Donc, oui, au début, les gens normalement, là il faut se rendre compte de ce que Goebbels a dit en Allemagne. Il a dit les gens normalement ils ne veulent pas la guerre. Mais on peut très facilement les manipuler parce qu'il faut tout d'abord créer les émotions de peur, de haine et de un peu la revanche. Là, il faut se défendre. Et puis après, pour ça, il faut toujours faire une petite manipulation et ça marche toujours parce que les gens ils se rappellent pas ce qui s'est passé il y a 50 ans, il y a 20 ans. Et après, on peut toujours répéter cette stratégie. Et pour nous, aujourd'hui, c'est comme la question si la guerre contre l'Irak était manipulée. Et on voit très clairement qu'il y a des éléments qui sont manipulés. Par exemple, l'histoire avec la bombe atomique de Saddam Hussein, que Cheney, il a dit, Saddam Hussein, il veut la bombe atomique, il est allé dans le Niger pour acheter du urane. Donc c'était pas vrai du tout, et Cheney le savait aussi. Et nous, comme historiens, on peut reconstruire maintenant que la guerre contre l'Irak, elle est manipulée. Sur les 11 septembre, c'est un peu plus difficile, mais là aussi, il faut poser les questions.
Justement, si on revenait en fait aux conséquences des attentats, c'est-à-dire qu'il y a eu les événements, les attentats en eux-mêmes, mais ensuite tout ce qui a été modifié, complètement bouleversé, par exemple l'Union européenne qui a instauré des mesures antiterroristes, ces mesures qui permettent à la CIA de kidnapper des gens, de les transporter dans des lieux secrets pour les torturer. Qu'est-ce qu'en termes de droits et de liberté, ça a bouleversé ces événements?
On a eu beaucoup de conséquences en septembre, parce que premièrement, on a eu la guerre contre Afghanistan qui a commencé déjà en octobre, déjà, moins qu'un mois après les attentats, et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Elle est maintenant plus longue que la Seconde Guerre mondiale, déjà, cette guerre en Afghanistan. On a la guerre en Irak, et elle continue aussi aujourd'hui. On a de plus des lois qui donnent plus de pouvoir aux services secrets. Et vous avez parlé du CIA en Europe, vous avez parlé, peut-être on parle aussi du Patriot Act et d'autres législations qui ont été passées. Et là, le problème fondamental qui se pose, c'est est-ce que le service secret nous protège ou est-ce que des fois ils font des actes de terroristes pour nous manipuler? Et là, c'est très important d'avoir une réponse, parce que si aujourd'hui on donne plus de pouvoir aux militaires et aussi aux services secrets, il faut quand même tout d'abord avoir une réponse à la question est-ce qu'ils ont, dans l'histoire, manipulé le terrorisme ou pas. Mais on parle très très peu du terrorisme manipulé.
Daniel Eganzer, vous évoquez l'Afghanistan, l'Irak, ce qui a une suite, jamais 203, on dit souvent en français, ce qu'on peut imaginer, l'Iran, qui est quand même au niveau géographique exactement de la cible, non?
Oui, on a naturellement ce discours sur une potentielle guerre contre l'Iran. Et là aussi, il y a tout un débat, si est-ce que c'est vrai que ça a à faire avec les armes atomiques ou si est-ce que ça a à faire avec le pétrole et le gaz. Et moi, vous voyez, je suis un historien, et les historiens disent qu'il y a des constantes dans l'histoire. Et les guerres pour les ressources, c'est très très constante. Et les histoires qu'on présente, il faut se combattre contre le communisme, il faut se combattre contre les musulmans, je sais pas quoi. Tout ça, ça change. Mais les power politics, ça s'appelle en Amérique, ça reste très très constante. Et moi, je dis aux gens, il faut quand même réfléchir sur la question, est-ce qu'on a du terrorisme manipulé, des guerres manipulées, pour prendre le pétrole et le gaz?
Vous voulez dire que finalement, on assiste au même procédé? Qu'hier, on attisait la peur du communisme, aujourd'hui, on attiserait la peur de l'islamisme, mais que tout ça n'a qu'un but, être toujours plus dominant au niveau des ressources naturelles?
C'est pas exactement la même situation, mais il y a quand même des parallèles très très fortes. Parce que là, il y a 10 ans que les gens pensaient qu'il n'y a pas de problème du tout avec l'islam. Pas du tout. Et aujourd'hui, les gens, ils ont convaincu que, mais heureusement pas tout le monde, mais beaucoup de gens, ils ont convaincu qu'avec l'islam, c'est très difficile, il faut quand même faire quelque chose, il faut peut-être faire cette guerre ou cette autre guerre. Et là, c'était la même chose avec le communisme. Là, tout d'abord, on le connaît même pas, et après, les gens, ils sont tout à fait convaincus qu'il faut quelque chose, qu'il faut faire une guerre en Vietnam, qu'il faut faire une guerre dans le Corée. Et là, à la fin, on parle très très peu des parallèles qu'on répète l'histoire. Et comme ça, beaucoup de gens aussi, ils veulent plus de guerre, ils veulent plus de terrorisme, ils veulent plus de violence. Mais pour terminer cette répétition, il faut une réflexion plus profonde. Et au moment, on la voit pas.
Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre, dit l'adage, par rapport aux gens qui ne se rappelleraient plus de l'histoire, comme vous le mentionnez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites alors, vous, les profs d'histoire, là? Il y a beaucoup de travail.
Et comment est-ce que vous en parlez avec vos étudiants?
Bon, les étudiants, c'est eux, ils ont de 20 ans à 25 ans, ils sont très très intéressés sur le 11 septembre, sur le terrorisme, la guerre en Irak, le pétrole, tout ça, ils sont très intéressés. Et moi, j'ai fait des cours à l'université de Zurich et à l'université de Bâle. Et c'est bizarre parce que les jeunes, les étudiants, ils viennent et il y en a beaucoup qui sont convaincus que c'est la théorie Mihop ou Lihop qui est correcte parce qu'ils s'informent beaucoup sur l'internet et là c'est, il y a beaucoup de sites qui disent ça. Et moi j'ai fait un cours où ils ont dû lire le rapport officiel, où on a discuté aussi des théories sur les sites internet, mais on a aussi critiqué ces sites internet et à la fin ils ont dû, trouver un moyen de discuter entre les trois théories. Et à la fin, ils étaient plutôt confus, c'est-à-dire ils ne savaient plus quelle théorie était la théorie correcte. Et là, je trouve c'est très socratique de savoir à la fin qu'on ne sait pas. C'est beaucoup plus avancé que...
Oui, mais
que
c'est frustrant, penser. C'est frustrant, M. Ganser.
Je sais, c'est frustrant, mais à la fin, c'est très dangereux de penser « Oui, je sais, c'est surprise. » Et pour ça, il faut faire une guerre. C'est beaucoup plus prudent de dire... Je sais que je ne sais pas, il y a du terrorisme manipulé, il faut être prudent, il ne faut pas continuer avec ces guerres, parce qu'avec le terrorisme, c'est trop compliqué. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Là, je trouve une position très très prudente, peut-être frustrante, mais prudente.
Eh bien, ce sera la conclusion de notre entretien, et puis c'est un peu effectivement ce qu'on a envie de dire sur cette semaine qu'on essaye de mener ensemble. Merci beaucoup, Daniel Eganzer.
Ouais,
donc, on peut renvoyer à votre site internet, hein, danieleganzer.ch, donc il y a tous vos articles, vos vidéos, et puis bientôt donc le podcast de cet entretien qu'on a eu ce matin.
Ouais, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
À vous aussi. Au revoir. Bon, ben, je m'en vais aussi. Hein.
Et demain,
nous serons avec Giulietto Chiesa, qui est parlementaire italien, qui a écrit différents ouvrages, qui est auteur aussi, et qui sera en direct de Strasbourg pour nous donner son point de vue et nous alerter sur, selon lui, les positions qu'il doit prendre face au terrorisme et à la manipulation en général. Voilà.
Ouais, beau boulot, Émilie.
Ouais, t'es gentil, je suis fatiguée. Bon, à demain.
À demain, ciao. The Last Shadow Puppets, des histoires d'ombre, mon Dieu. C'est clair quand même, il s'agit d'un repérage couleur 3. Bonjour madame, c'est Couleur 3, c'est bientôt l'Eurofoot en Suisse, on vous sent vraiment enthousiaste. Hein?
Ah, tout à fait, oui.
Vous êtes pour quelle équipe?
Aucune équipe. Moi, je vais en profiter pour aller au cinéma.
Bon film.
If you're alone and need a hand, come and take my be sure I understand. I hate to see you falling down. I'd rather see you standing proud. And if you're sad and insecure, follow my steps, you know you can be sure that they will lead you up the road. Let me help you, let you go. Go beyond your dreams and call them what you want.
Go and call them what you want. Go and call them what you want. Go and call them what you want. Go and call them what you want.
Take your future in your hands, make it happen for you, for your friends. I know you will be strong enough, if you fall down, if you lose, to stand up. So take my hand and follow me, open your heart and set you free.
De la côte lémanique, la famille Bou avec Dream se tirait de leur premier scud, le deuxième vient de sortir. On part sur les Hoosiers, et puis juste après, il y aura le rendez-vous, juste après les informations, évidemment, vous pouvez appeler maintenant pour passer votre annonce si vous cherchez du taf ou si vous en proposez. Le seul numéro valable, 0840 003 003.
I'm not afraid to
Allez, pas de panique, les Hoosiers, on a retrouvé Ray, parce qu'il se demandait où était passé Ray. Ben Ray est Ray, justement, dans sa Ray.
A vu Gilles Lamotte,
11h, Libreville, 10h, 1 pour 1.